les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier.
Le thème de notre dossier du jour, V, une série moins homogène que pourrait le croire le public francophone qui a vu tous les épisodes sous le même titre et avec le même générique. V a débuté sous forme d'une mini-série de deux épisodes diffusée en mai 1983. Devant le succès rencontré, NBC a décidé de remettre le couvert un an plus tard avec une deuxième mini-série de trois épisodes, cette fois V, la bataille finale. L'année suivante, en 85, elle devient un feuilleton hebdomadaire, mais la qualité n'est plus au rendez-vous et le téléspectateur la boude. Seulement 19 épisodes seront diffusés. Le 20e a été écrit en partie, mais jamais tourné. Kenneth Johnson est le créateur de la série. Il a pleinement participé à la première mini-série, mais ses vues ne s'accordent pas avec celles de NBC. Il se retire alors que l'écriture de la deuxième mini-série n'est pas terminée. Robert Singer et Daniel H. Blatt reprennent la production. Jane Badler incarne l'horrible Diana, Frank Ashmore et Martin. Mark Singer joue Mike, Donovan et Julie Parrish à l'étrée de Fay Grant. Retour sur l'histoire avec un grand H de la série avec un grand V en compagnie de Sarah. Bonjour.
Bonjour Alex, bonjour à tous. V, c'est vraiment une série intéressante. Elle est construite sur le mode du « et si ». Et si un leader fasciste prenait le pouvoir aux États-Unis, qu'est-ce qu'on ferait? Et Kenneth Johnson, tu l'as dit, puisque c'est lui qui a été le créateur, a été lui inspiré de It Can't Happen Here, un roman de Sinclair Lewis, qui racontait justement comment les États-Unis réagissaient si jamais un leader fasciste prenait la place aux États-Unis. Il disait lui-même qu'il avait remarqué qu'il y avait des éléments fascistes qui se mettaient en place aux États-Unis, comme des milices par exemple, et c'est vrai que c'est un élément qui existe beaucoup là-bas, et que ça lui avait posé question dans le sens où il trouvait que c'était des éléments fascistes et qu'il trouvait qu'il y en avait de plus en plus. Alors NBC le suit, sont d'accord de faire une série ou une mini-série sur cet élément-là, à une seule condition, que le fasciste en question ne soit pas des Américains. Comme il est un amateur de science-fiction, il décide de choisir son fasciste dans les étoiles, ce qui est aussi assez intéressant. Alors une autre inspiration, c'est la nouvelle de Damon Knight. Ceux qui aiment bien les séries savent tout à fait de qui je parle. C'est lui qui a écrit « Comment servir l'homme ». Et si vous vous souvenez, dans la quatrième dimension, il y avait un épisode qui était inspiré directement de sa nouvelle. Alors dans sa nouvelle, des hommes venus de l'espace atterrissent sur Terre, ont l'air très gentils, très amicaux, veulent faire plein de cadeaux aux êtres humains, notamment au niveau de la technique, de la science et de la médecine. Mais en fait, tout ça c'est pour que l'homme se sente bien et s'engraisse, puisque le but c'est de reprendre l'homme dans les vaisseaux et d'aller les manger tranquillement sur sa planète.
Un épisode parodié beaucoup plus tard par les Simpsons d'ailleurs.
Entre autres, effectivement. Alors qu'est-ce qui se passe dans V? 50 énormes vaisseaux, ronds et blancs, envahissent l'espace au-dessus de 50 villes de par le monde, le Caire par exemple, ou Paris évidemment, au-dessus de la Tour Eiffel. Ils se présentent comme étant amicaux, ils veulent partager avec l'homme des découvertes scientifiques, ils veulent leur montrer notamment le vaccin contre le cancer, tout ça en échange d'un petit coup de main. Ils ont besoin de nous en effet pour produire des produits chimiques qui vont leur permettre de lutter contre leurs problèmes environnementaux qui sont devenus apparemment assez catastrophiques. Donc finalement, l'homme se dit « Ouh, voilà des aliens qui veulent nous donner 2-3 vaccins et qui en plus ont besoin d'un coup de main et de faire marcher nos industries. » C'est du tout bon. Malheureusement, la belle aubaine se change très très vite en cauchemar puisqu'ils ne sont pas si honnêtes que ça. D'abord, ils ont caché leur apparence réelle, ce qui est déjà un peu bizarroïde. S'ils sont si honnêtes, pourquoi est-ce qu'ils ont dû se changer? Bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas très très beaux non plus. Si vous vous souvenez, en dessous de la peau factice, on va dire, il y a cette fabuleuse peau verte de lézard et les yeux rouges en amande qui sont absolument horribles. Donc c'est vrai qu'on peut se comprendre, mais enfin c'est un peu bizarroïde de voir quelqu'un s'amener sous un masque. Et puis on apprendra petit à petit que leurs motivations ne sont pas tout à fait celles qu'ils ont avancées. En effet, ils ont besoin avant tout d'eau et ils comptent pomper celle de la Terre en une génération. Et ils ont aussi besoin, comme leur terre est devenue très aride parce qu'il n'y a plus d'eau, ils ont besoin de quelque chose à manger. Or le quelque chose à manger, ça va être l'homme. Mais malheureusement, les visiteurs ont très bien préparé leur entrée et personne ne semble remettre en question leur discours. Il faut dire qu'ils ont utilisé la force de propagande terrienne majeure qui est la presse télévisée en particulier, et qu'ils ont très bien compris comment manipuler la presse pour faire passer leur discours à eux. Et puis ensuite, ils ont très bien appris comment il fallait étaler la crème, on va dire ça comme ça. Ils s'adressent directement aux organes officiels. Comme j'ai déjà dit, ils amènent directement avec deux, trois petites découvertes bien intéressantes comme le vaccin contre le cancer. Et donc, tout de suite, on a l'impression qu'ils viennent effectivement en amis.
Heureusement pour les terriens, tout le monde ne sera pas dupe.
Non, effectivement. Et surtout, ils vont faire une erreur. Et c'est à partir de ce moment-là que les gens qui ne sont pas dupes, comme tu dis, vont tout de suite se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sous prétexte d'une coalition de scientifiques qui veulent faire des attentats contre les visiteurs, ils décident de mettre en place la loi martiale et de protéger les gouvernements en les amenant dans les vaisseaux mères. En gros, ils capturent les gouvernements et leur font faire des lavages de cerveau et ils mettent aussi la loi martiale. Donc c'est la presse officielle qui a le droit de parler, il y a un couvre-feu, il y a des affiches de propagande. Et à ce moment-là, justement, comme tu le disais, des gens ne sont pas dupes et se disent c'est pas possible, nous on est des scientifiques, on sait que monsieur Untel n'est pas un facho, on sait qu'il ne mettrait jamais en place un groupe terroriste. Et des journalistes aussi se rendent compte que finalement c'est peut-être pas une bonne chose, qu'ils n'ont plus de droit de parole, qu'ils n'ont plus non plus une expression totalement libre. Et ces gens-là vont petit à petit se rassembler pour former une résistance et seront après rejoints par d'autres membres, par exemple des membres d'anciennes armées, des choses comme ça. Et ils vont tout doucement pouvoir dévoiler au monde ce que sont les visiteurs, ce qu'ils font et ce qu'ils veulent. Ça ne se fera pas sans mal, évidemment, puisque les visiteurs n'ont pas décidé non plus de les laisser faire. Mais on voit que non seulement la résistance se met en place, mais après, elle commence à attaquer. Dans la résistance, on a aussi, ça c'est un phénomène qui est intéressant, des visiteurs eux-mêmes qui ne sont pas partisans, comme le Willy par exemple, le petit Willy qui est joué par Robert Englund. Au départ, bon, c'est vrai qu'il est un peu kidnappé par la résistance, mais tout de suite, on se rend compte qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec les ordres donnés par sa hiérarchie. Et puis surtout, au sein des visiteurs, il existe déjà une résistance qui s'appelle la cinquième colonne, de personnes qui n'aimaient pas du tout le leader, parce qu'en fait, le chef des visiteurs s'appelle le leader et c'est un chef fasciste qui a pris le pouvoir de manière dictatoriale sur leur terre à eux et qui surtout a amené leur planète dans une voie sans issue puisque c'est lui qui a causé cette sécheresse dont on parlait tout à l'heure.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Des gens de votre planète.
Mort.
Non. Ce n'est qu'une apparence. Leur métabolisme est considérablement ralenti. C'est le travail de Diana.
Ça explique les disparitions. Mon fils, il est là-dedans lui aussi.
Ou sur un autre vaisseau mère.
Pourquoi avoir fait ça? Pour les garder, pourquoi ne pas les avoir tués?
Notre chef les veut vivants. Quelques-uns vont devenir des soldats pour combattre son ennemi.
Quel ennemi?
Une puissance par laquelle il a déjà été battu.
Cet ennemi pourrait devenir notre allié.
Je ne sais que très peu.
Où je peux les trouver? Il y en a une partie qui doit aller se battre, pas les autres.
Non.
Que vont-ils devenir?
En réalité, il n'y a pas que l'eau qui nous manque pour survivre sur notre planète.
De la nourriture.
Cette série est très intéressante au niveau visuel. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent de ce moment-là. Ils sont dans une espèce de grande pièce avec les êtres humains qui sont pendus dans des espèces de capsules. Et Martin allume une lampe et on découvre qu'en fait, il n'y a pas une dizaine, ni même une centaine, mais probablement des milliers, voire des dizaines de milliers de corps parce que la salle s'allume au fur et à mesure.
Ça fait un peu penser à Matrix avant l'heure, finalement.
Oui, c'est vrai. Et c'est comme ça tout le temps. Je sais pas si vous vous souvenez des batailles dans le ciel, entre les navettes. Il faut remettre tout ça dans le contexte. C'était quand même en 83. Si vous vous souvenez même des vaisseaux mères et de l'arrivée des vaisseaux mères au-dessus des villes, tout ça est vraiment bien foutu. En fait, ils ont collaboré avec la Pacific Title et DreamQuest qui ont travaillé auparavant sur Rencontre du Troisième Type pour les vaisseaux. Et les maquillages, c'était carrément le gars qui avait fait les maquillages de La Planète des Singes. Leo Lotito qui avait travaillé sur le maquillage des hommes verts, donc. Et c'est le cas de le dire, des lézards dans ce cas-ci. C'était pas n'importe qui et ça donnait une série qui finalement a très très bien vieilli. On peut encore regarder vieux aujourd'hui comme on regarde une série actuelle et mis à part 2-3 ordinateurs dont on voit bien qu'ils ne sont plus du tout actuels, ça donne pas mal. Mais est-ce que finalement tous ces effets spéciaux font une bonne série SF de science-fiction? Donc c'est vrai que l'inspiration on la prend dans un bouquin « Comment servir l'homme » qui est quelque chose d'intéressant. C'est vrai qu'elle reprend tous des éléments science-fiction, comme l'invasion, comme dans Les Envahisseurs, par exemple, ou les soucoupes volantes qui existent depuis Roswell, finalement. Qu'elle allie tout ça avec des effets spéciaux de très bonne qualité, mais c'est pas pour ça que ça fait d'office quelque chose qui tient la route. Chris Pine, un écrivain de science-fiction, qui est cité dans Arrêt sur série, le numéro 4, dit qu'en fait, au niveau science-fictionnel pur, la série est plutôt médiocre, qu'elle reprend finalement beaucoup de déjà-vus, mais que par contre, c'est une très très bonne série télévisuelle de science-fiction, que jusqu'avant, c'est vrai qu'on avait vu des choses intéressantes, mais que là, c'est carrément très très intéressant. Et c'est vrai qu'en plus de ça, il y a des petits clins d'œil à la science-fiction qui sont très rigolos. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le lendemain de l'invasion, Julie raconte ce qui s'est passé pendant la nuit sur la télévision principale à son petit copain, et elle dit que Ray Bradbury et Arthur Clarke sont venus faire une émission et donner leur avis. Alors Ray Bradbury et Arthur Clarke, ce sont deux écrivains de SF hyper connus, ce sont même carrément ceux qui ont fait partie des pionniers de la SF. Ou alors quand les premiers groupes de visiteurs viennent travailler avec les humains sur la Terre, une fanfare est appelée pour faire joli, on va dire, et ils jouent le thème de la guerre des étoiles. Alors ça, c'est très drôle, par exemple. Et tout ça, finalement, fait qu'à mon avis, V est un moment important de science-fiction à la télévision. On le sait parce que depuis, par exemple, un film comme Independence Day a repris les images de l'arrivée des envahisseurs dans ces grands vaisseaux. Donc ça veut dire que c'est une série dont on se souvient. Et je parie que si on demandait demain à un panel de population quelles sont les images de SF dont vous vous souvenez le plus à la télé, ils diraient les yeux ou la peau des extraterrestres quand on leur déchire la première peau et qu'on voit apparaître la deuxième, ou la transformation de la petite Elisabeth en grande Elisabeth qui, moi, m'a carrément fait cauchemarder pendant des années. Et je suis sûre que la plupart d'entre vous se souviennent de ça. Ce qui est aussi très intéressant, ce qui fait que cette série n'a pas vieilli du tout, ce sont les réactions des êtres humains face à ces envahisseurs. D'abord, le premier jour, on a des gens qui sont fascinés, des gens qui sont apeurés, qui s'enfuient. On a des gens qui sont obnubilés, il y a des gens qui s'en foutent. Et puis, au fur et à mesure que la série passe, on se rend compte qu'il y a des gens qui deviennent collaborateurs, qu'il y a des gens qui deviennent résistants, qu'il y a des gens qui sont pas dupes du tout, mais qui font de l'argent. Et finalement, on se retrouve face à des réactions vraiment bien décrites, des genres de choses qu'on a pu voir aussi pendant la guerre 40-45, qui est aussi une inspiration de Kenneth Johnson. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas nécessairement non plus des gens très bons et des gens très méchants. Parmi les méchants, on a des gens très gentils. Et parmi les gens soi-disant gentils, on a des gens très méchants. Mais ça, je pense qu'on pourra en reparler avec les portraits.
Le monde a été stupéfait aujourd'hui quand le lauréat du prix Nobel, le docteur Maurice Jankowski, de l'Institut biomédical de Bruxelles, en Belgique, a tenu une conférence de presse pour révéler l'existence d'une conspiration internationale visant à nuire à nos visiteurs.
Ce qui attira d'abord mon attention, ce fut le fait que le docteur Rudolf Metz de Californie ait voulu me voir pour me parler de ce qu'il appelait une affaire urgente et confidentielle. Quelques-uns de mes confrères ont été aussi contactés par des savants appartenant principalement au monde anthropologique et biomédical de différentes nationalités et qui apparemment sont engagés dans cette sournoise conspiration.
Quels sont leurs plans ?
Leurs plans sont tout simplement d'arriver à s'emparer et de contrôler plusieurs vaisseaux-mères appartenant aux visiteurs.
Que traitez-vous de leur vaisseau ?
Ils ont essayé de toutes leurs forces de me convaincre que c'était pour protéger la race humaine, que c'était pour empêcher toute puissance militaire d'asservir notre planète. J'ai la ferme conviction que les motivations sont évidemment plus personnel.
Le docteur Jankowski a alors signé sa déposition. Y figuraient les noms de tous ceux qu'il avait accusés d'avoir voulu l'entraîner dans cette conspiration. Quand la rumeur de cette déposition commença à se répandre, les conséquences en furent internationales. Dans le monde entier, en effet, beaucoup de scientifiques du corps médical ont admis qu'ils avaient été contactés, ou bien ils ont avoué qu'ils faisaient vraiment partie de cette conspiration. Vous voyez en ce moment le docteur Jacques Duvivier, physicien et éminent biochimiste français, lui aussi prix Nobel.
Salaud de savant.
Il est détenu par la police française. Et il a avoué être impliqué dans la conspiration avec d'autres scientifiques dont il a donné les noms.
Et beaucoup de savants dans le domaine biologique.
Quinton est toujours absent.
Ainsi qu'une demi-douzaine d'autres. La police ne comprend absolument pas ce qui se passe.
Simplement disparu. Ce qui laisserait croire que les accusations portées contre eux ne l'ont pas été à tort. Christine Walsh, l'attachée de presse du commandant suprême des visiteurs, John, a déclaré ceci.
Les visiteurs ont été choqués d'apprendre l'existence de cette conspiration et quelque peu effrayés du désordre regrettable qui pourrait en résulter. Non seulement les travaux qu'ils effectuent pourraient en souffrir, mais leur projet de nous faire partager leur savoir risque d'être remis en question. En attendant, tous les séminaires scientifiques qui devaient commencer la semaine prochaine sont remis à plus tard.
Et parce qu'il est encore trop tôt pour savoir avec précision combien de savants sont impliqués dans cette affaire, les Nations Unies ont agréé les requêtes des visiteurs demandant que tous les scientifiques et les membres de leur famille aillent faire enregistrer leur lieu de résidence auprès des autorités locales. Des ordinateurs seront mis en service pour vérifier les déclarations.
Quelques portraits intéressants dans cette série. Et je vais commencer probablement par un personnage auquel vous ne vous attendez pas du tout, c'est Willy. Moi, ça reste mon personnage préféré dans cette série. Et pas parce qu'après, Robert Englund a joué dans les films d'horreur bien connus. Non, Willy, c'est d'abord un empoté, carrément. Il était en fait prévu qu'il soit envoyé dans les pays du Moyen-Orient, donc il a appris l'arabe en vitesse accélérée. Et malheureusement pour lui, il se retrouve à Los Angeles, où l'arabe n'est pas vraiment la langue courante. Et donc, il a un peu de mal à dialoguer, et ça n'arrange pas du tout non plus ce côté un peu maladroit. Heureusement pour lui, Harmony, une humaine, brise la glace. Elle tombe en fait tout doucement amoureuse de lui. Et on se retrouve face à un petit gars assez généreux. Il sauve un de ses collègues qui était tombé dans un produit très froid. Mais ça ne gêne pas du tout, vu qu'il a les armes. Enfin bon. Donc il le sauve. Et puis il vient par exemple aussi à l'enterrement du fils de Caleb, Ben, parce qu'il veut apporter un peu de réconfort à Caleb. Même si celui-ci le prend assez mal, étant donné qu'il est un des visiteurs, donc un des ennemis. Mais ça montre qu'il a quand même des sentiments et qu'il a quand même envie de faire du bien aux gens.
Un peu de compassion pour les humains, en tout cas.
En tout cas. Sa gentillesse, après, c'est ce qui prédomine quand il fait partie de la résistance dans les mini-séries. Et on verra après, dans la série hebdomadaire, qu'il travaille pour le Club Créole. Donc, il a choisi de rester sur Terre et de se fondre dans les humains. À partir de ce moment-là, il devient surtout le guide et le conseiller d'Elisabeth, donc la jeune enfant stellaire qui est née d'une mère humaine et d'un père visiteur. Il aide déjà à la mettre au monde. Au début, il est le seul à savoir à quoi ressemble un enfant de visiteur. Puis ensuite, il lui expliquera d'où elle vient, quel est le peuple dont elle est à moitié originaire, etc. Et il n'est absolument pas d'accord avec la politique fasciste du leader. Autre personnage de la résistance, c'est Ham Tyler. Alors lui, c'est le méchant de la résistance. Je vous disais tout à l'heure que les bons ne sont pas toujours que des gentils. Ham Tyler, lui, il est méchant. Il est incarné par Michael Ironside et il ne tient absolument pas compte des individus. C'est-à-dire que si ton fils, c'est le cas de Mike Donovan, si ton fils s'est fait enlever ou si ta petite amie Julie s'est fait enlever, on s'en fout. Parce que de toute façon, ils ont eu droit à un lavage de cerveau. Donc même s'ils reviennent, ils ne sont plus aptes à être des résistants. Donc pour lui, ils sont perdus. Donc il ne voit pas pourquoi on perdrait son temps à aller les chercher. Ou par exemple, quand il faut tester la toxine rouge, il décide que le premier visiteur qu'on a sous la main est le bon, et donc Willy. Donc lui, il est tout à fait d'accord qu'on teste la toxine sur Willy. Et il faut que les autres de la résistance disent non, autrement lui, il l'aurait fait.
Il fait donc aucun sentiment.
Ah non, le sentiment, c'est pas du tout son affaire. Lui, il est plutôt spécialiste des missions d'infiltration, parce qu'il était mercenaire avant. Et donc, il est là, et il est finalement le type dont la résistance avait besoin. Il est là pour faire passer la résistance d'un groupuscule de scientifiques qui sait pas quoi faire à quelque chose d'organisé, quelque chose de plus militaire et de plus combatif. Il vient en fait au départ de la part du Front de Libération du Monde, qui est un réseau de résistance internationale qui s'est mis en place et qui recrute tous les petits réseaux de résistance qui s'étaient mis en place de manière un peu éparse. Donc on voit que Ham Tyler n'est pas nécessairement gentil. En fait, on apprendra dans la série hebdomadaire que c'est un homme blessé avant tout, puisqu'il a fait le Vietnam, il est tombé amoureux d'une femme dont il a une fille et qu'elles ont été toutes les deux tuées. Ça vient peut-être de là.
Donc clairement, dans cette série, personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir.
Effectivement, sauf peut-être Diana, qui elle est toute noire, du début jusqu'à la fin. C'est vrai qu'on peut difficilement parler de cette série sans parler d'elle. Je sais pas si beaucoup d'entre vous se souviennent qu'au départ, elle est pas du tout la chef des visiteurs. Elle est qu'une scientifique en chef, sous les ordres de John, le commandeur. Et elle est l'égale de Steven, qui est le chef de la sécurité, même si elle l'engueule plus souvent qu'à son tour. Alors elle est très très ambitieuse. On apprend qu'elle est la maîtresse du leader, donc le chef suprême, et que c'est comme ça qu'elle a eu droit de l'avancement. Elle se retrouve aussi généralement face à beaucoup d'autres intrigantes dont elle prend le dessus. On pense à Pamela et Lydia, surtout la plus connue, la blonde. Mais elle est aussi surtout très cruelle, et c'est ça qui fait qu'elle est noire, comme je disais tout à l'heure. C'est elle qui a mis au point le procédé du lavage de cerveau, donc la conversion. Elle l'a mis en place, mais elle est aussi celle qui aime bien torturer les gens. Elle torture d'ailleurs dans les interrogatoires Mike Donovan ou les chefs de la résistance en général. Mais elle a aucun scrupule aussi. C'est elle qui décide de mettre en place une expérience médicale improvisée en faisant coucher Robin avec Brian et donc en mettant au monde, entre guillemets, Elisabeth, puisque Robin ne savait pas du tout ce qu'elle allait, à quoi elle devait s'attendre. Quand elle est prise au piège aussi, elle aime pas tomber toute seule et donc si tu la prends en piège dans son vaisseau mère et qu'elle risque d'être emprisonnée, elle met en service le système d'autodestruction qui est une bombe atomique pour détruire la Terre. Et c'est comme ça que se finit la seconde mini-série, parce que Elisabeth est la seule qui peut arrêter ce procédé d'autodestruction. Après, donc, cette chère Diana revient et veut reprendre le monde en main, etc., etc. Vous vous souvenez tous de cette histoire.
Donc clairement, V, une série qui revient aussi souvent sur le thème du nazisme et du totalitarisme.
Oui, des sentiments humains, donc c'est pas uniquement des effets spéciaux, c'est des effets spéciaux intelligents, on va dire.
Sarah, merci.
De rien, à la prochaine.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web. www.afds.tv